Blanche, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Sophia Mastoridis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une femme d'innovation, de communication, une dresseuse de pont entre des univers différents. On va parler de tout cela pendant cette interview. Vous êtes aussi une montésane d'adoption. Et c'est là, à Montais, bord de la Vièze, que vous m'avez donné rendez-vous. Pourquoi ?
Exactement. Alors, quand on a emménagé à Montais, on habitait à côté de la Vièze. Et c'était un endroit où je venais souvent avec... pour me promener, pour trouver un peu la sérénité, parce que j'avais deux petits-enfants et je connaissais personne. Et j'adore le son de l'eau, tout ce qui est rivière, ruisseau, la mer, évidemment. Et...
Oh, Thalassa.
Thalassa, voilà, exactement. Et c'est pour ça que je venais ici tous les jours, et c'est ici qui m'est venue aussi... l'idée de mon projet professionnel, personnel.
Alors, on va l'évoquer, hein. C'est un projet qui est lié à la Grèce, qui est votre deuxième pays. Vous êtes gréco-suisse ou suisse-grec. Alors voilà, si je crois les règles du patriarcat et votre nom de famille, c'est votre papa qui est grec et votre maman donc est suissesse. Mais on peut détecter à votre petit accent que, en tout cas, une bonne partie de votre vie s'est faite en Grèce. Hein. Vous êtes né là-bas, vous avez grandi là-bas ?
Alors oui, je suis gréco-suissesse, du coup, mais d'abord le gréco. Et je suis née à Genève. Et quand j'ai eu 8 ans, on est tous partis en Grèce parce que ma maman, qui est suissesse, adorait la Grèce et est tombée amoureuse de la Grèce et d'un grec.
Comment non ?
Comment non ? À Santora en plus.
Ah oui.
Et du coup, on a déménagé en Grèce. J'ai fait toute ma scolarité, mes études en tourisme là-bas. Et après, j'ai travaillé quelques années en Grèce. J'ai compris que ce n'était pas exactement fait pour moi. J'avais quand même un regard un peu négatif sur la Grèce, malheureusement, et les Grecs, ce qui va changer au cours de mes années ici en Suisse. Et...
Ah, c'est intéressant, ça.
Oui, c'est intéressant.
C'est-à-dire que là-bas, on se dit, on voit tout ce qui est critique, comme on peut le voir ici. Hein. Et puis c'est quand ça. On va ailleurs, on se souvient de tout ce qui était positif.
Exactement, on veut toujours partir de là où on habite des fois, mais finalement, on retourne aux racines.
Mais... Bon, je connais pas votre âge exact, mais enfin, je subodore que vous avez vécu en Grèce comme jeune femme, jeune fille, la crise.
Exactement.
Ça veut dire un moment très dur hein, pour la population grecque, la crise financière avec la mainmise européenne, la troïka, enfin toutes ces choses qui ont mis la population grecque devant des réformes absolument contraignante et difficile à vivre. Comment vous l'avez vécu ça ? Vous étiez étudiante ?
J'étais à ce moment-là, j'étais salariée, mais voilà, dans des conditions à la grecque. Du coup, j'étais pas du tout contente du système. Et comme beaucoup d'autres jeunes, j'ai décidé de partir. Et j'avais de la chance que j'étais moitié suisse. J'ai envoyé plein de candidatures, je crois j'en ai envoyé 300 en Suisse.
Vos parents sont toujours en Grèce ?
Ils sont revenus aussi après moi, quelques années après, tout le monde est venu, tous mes frères et sœurs. Et du coup j'ai envoyé 300 candidatures et il n'y a qu'une réponse que j'ai reçue d'un hôtel à Genève, au Paqui. Du coup j'ai pris le travail, j'ai pris l'entretien et je suis venue avec une valise à la main. Et heureusement j'ai
en
eu
carton.
Le travail. En carton. Tous mes cartons, il n'y avait pas beaucoup de choses à l'époque.
C'est intéressant, hein. c'est quelque chose, moi je suis content de vous rencontrer parce que cette fuite des jeunes diplômés de pays qui vont mal, c'est quelque chose dont on entend parler très souvent, malheureusement très souvent, hein. Il y a beaucoup de pays qui vont mal, et voilà, de façon très concrète, c'est une réalité qui s'impose si on a envie d'une vie, quoi, hein. Ça, alors vous, c'était pas une affaire de migration au sens légal du terme puisque vous êtes suisse, mais vous, j'imagine que ça donne aussi une compréhension pour ceux qui disent ben ici j'ai pas de vie quoi, ou en tout cas j'ai pas la vie que je rêve d'avoir.
C'est vrai, c'est difficile de tout lâcher et repartir à zéro parce que tu dois refaire ton cercle social, ton cercle professionnel. Pour moi, tu vas 10 ans en arrière dans tout et c'est pas facile. Et du coup, en Suisse, c'est encore un peu plus difficile de se faire des contacts et des amis.
Voilà, là on passe dans un petit tunnel près de la piscine à Montais. Il y a une sonorité comme ça un peu...
Mystérieuse.
Un peu ecclésiale, peut-être. Voilà, on en sort. Ben, c'est là, j'imagine, quand on arrive en Suisse et que les relations sociales sont peut-être un petit peu plus fraîches et un petit peu plus dures à adopter qu'ailleurs, qu'on se dit mais finalement c'était pas mal la Grèce. Hein,
oui,
quand
oui,
on se connaissait
vrai.
Tous et que...
que tout était plus facile à ce niveau-là, niveau social. Mais niveau professionnel, je ne retournerai pas dire que c'était mieux en Grèce, jamais.
Bon, en tout cas, à l'époque où vous l'avez connu, ce serait intéressant d'ailleurs de voir comment évolue la Grèce après ces années difficiles. Hein. Aujourd'hui, vous avez décidé d'y installer un business, donc on pourra peut-être l'évoquer. Alors, on était dans un hôtel à Genève. Je ne vais pas vous demander tout le CV, mais enfin, vous débarquez en Valais. Puis alors là, je vous trouve dans plein de projets, Science Valais, TEDx, toutes sortes de projets comme ça liés à l'innovation. Donc vous avez quitté le tourisme, en somme, hein, pour quelque chose dans cet univers-là de l'innovation. Pourquoi ?
Alors, c'était en fait parce que j'aimais beaucoup l'événementiel. Et je me suis dit, je vais me former dans ça. Je vais prendre un diplôme suisse. Comme ça, j'aurais plein de chances de trouver du boulot en Suisse. Évidemment. Parce que je pensais que c'est mon diplôme grec qui posait problème. Mais du coup, j'ai compris...
On vous l'a fait sentir, ça ?
Oui. Oui, on m'a même dit que mon CV, il était vraiment pas bon. Okay. Parce qu'en plus, j'ai changé beaucoup de boulot. À l'époque, ça se faisait pas. Maintenant, tout le monde le fait. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais trouver du travail dans l'événementiel. J'ai pas pu trouver. Et qu'est-ce que je voulais faire en arrivant en Valais ? Trouver des amis et rencontrer des gens et trouver un travail dans ce que j'aime, qui était l'événementiel à l'époque. Et comme le secteur événementiel, c'est très associatif, il y a beaucoup de bénévolat finalement, il n'y a pas beaucoup de postes à payer, je me suis dit, bon, je vais faire du bénévolat. Et c'est là où j'ai découvert tout cet univers d'événements que tu peux juste dire, voilà, je veux vous aider à l'organiser et tu peux juste faire partie d'une famille et d'une communauté. Et c'est comme ça que j'ai rejoint TEDx Martini, et après le Mirage ici à Montaix. Et c'est comme ça que j'ai rencontré des gens et mon futur patron avec qui je fais tous ces projets innovants.
Voilà ce qui s'appelle se construire son réseau soi-même.
Hein. Exactement, c'est ce que j'ai fait.
Faire des petits sacrifices et on est en espérant que ça donnera quelque chose. Quoi.
Voilà, et ça a donné parce que je suis contente. J'ai compris vite que les Suisses ne vont pas venir vers toi. Parce qu'en Grèce, c'est pas le cas. Les gens, ils viennent vers toi. Alors, quand je l'ai compris, j'ai dit, bon, allez, faut faire quelque chose. Sinon, c'est dommage, quoi. Tu profites pas de tout ce réseau et ces belles personnes qu'il y a en Valais, je trouve.
C'est un peu la Grèce ?
Oui, je trouve que le Valais, c'est la Méditerranée de la Suisse. J'ai toujours dit ça.
Bon, on l'a dit. Alors, il y a Rilke qui disait que c'était la Provence de la Suisse, là, son coin okay. du Haut-Valais. Et puis, au moment de la crise grecque, les Suisses alémaniques disaient que le Valais, la Suisse romande en général, mais enfin peut-être
c'est
un
vrai.
Peu particulièrement le Valais, c'était la Grèce de la Suisse voilà. parce que les finances n'étaient pas tenues, etc. Donc c'est un peu à double tranchant.
Hein. Mais moi,
si on me dit c'est la Grèce de quelque part, je suis dans le compliment et pas dans l'insulte
oui,
qu'on a pu connaître.
Tout,
bien sûr, et puis la culture évidemment et cette
chaleureuse, ouais.
Merveilleux pays qu'est la Grèce. Bon, l'innovation. Moi, je fais énormément d'interviews, j'en fais dans les secteurs économiques. Je vois depuis le temps que je suis à Radio Chablais, le canton du Valais changer, évoluer, sortir d'une espèce de troïka, puisqu'on parlait de ce mot, agriculture, tourisme, industrie, pour autre chose. Comment vous voyez ce canton avec votre œil à vous ? Il est en train de changer ? Il a déjà changé ?
Pour moi, il est en train de changer. Je trouve qu'il y a beaucoup de place pour l'innovation, pour la science, pour tout ça en Valais. Il y a encore des mentalités qui sont réticentes. Mais je trouve que ça change. Et il y a les bases pour bien faire les choses aussi.
Bon, puis des structures, l'État a fait ce qu'il fallait.
Oui,
hein. Il y a déjà un petit moment avec le réseau d'IARC, avec toutes sortes de points comme ça. Il y avait une sorte de vision quand même, hein, politique.
Oui, il y avait une vision politique. Mais nous, on fait le travail au niveau plus humain, proche de l'humain, changer les mentalités des gens de tous les jours. On est plutôt là.
Alors, j'ai parlé de Science Valais, à travers Science Valais. C'est un petit peu compliqué de vous suivre. Hein. Il y a Connex, il y a Green Up, il y a toutes sortes de noms comme ça, d'entreprises où vous avez une part. Il y a Neurone aussi, avec un H, hein, comme le Rhône.
Ouais.
voilà, qu'est-ce que vous voyez comme lien? Je disais tout à l'heure que vous étiez peut-être un peu architecte et que vous construisiez des ponts. Vous reliez parfois les scientifiques avec le public, parfois les jeunes entrepreneurs avec le public, parfois le public avec des projets scientifiques comme le Time Machine en Valais, etc. Faire des ponts, ça vous va comme
Alors, j'ai compris que j'aime beaucoup créer des connexions et mettre les bonnes personnes au bon endroit ensemble pour innover.
Non, toi, tu t'assieds pas là, tu t'assieds là.
Non, c'est beaucoup plus sympa. Ah, c'est plutôt voilà, de trouver les compétences de chacun et de les mettre ensemble. Et après, il y a des choses magnifiques qui se passent, en fait. Quand tu mets le public, par exemple, avec les scientifiques, on dit toujours que les scientifiques, ils sont loin de la réalité et tout, mais finalement, eux, ils veulent vraiment transmettre ce qu'ils ont trouvé. Parce que s'ils le transmettent au public, le public, ils peuvent aussi faire un retour réel des besoins qu'ils ont. Et c'est magnifique. Et autour d'une bière, quoi
ouais,
de mieux.
Alors ça, c'était les Pint, Pint Science,
ouais.
C'est ça?
Exactement.
Pint et Science. Où vous mettiez en effet des c'est toujours en route d'ailleurs ça,
c'est toujours,
au printemps que ça se passe.
Oui exactement.
Au mois de mai.
Au mois de mai, c'est ça. On espère le faire aussi en Valais, on verra bien.
Voilà, c'est un truc plus large, mais
oui,
par contre quand c'était en Valais, j'ai vu que c'était toujours à Sion et Brigue.
Oui, on fait.
Vous êtes une chablaisienne vous?
Oui, bah, je
oui,
sais,
bah,
mais
bon.
C'est les universités, ils sont là-bas, ouais. À Sion, et tous les scientifiques aussi.
Ah voilà.
C'est pour ça.
Voilà.
Quand il y aura une université ici au Chablais, on fera aussi.
Ouais, alors j'imagine qu'on aura des bières avant d'avoir des universités, donc voilà, on choisit son camp. Non, mais c'est absolument irrecevable comme argument, ça, madame. Hein. Avec la mobilité que nous avons aujourd'hui.
C'est vrai.
Irrecevable.
Avait raison.
Oh là là. Heureusement qu'on arrive à la fin de la première partie, que je puisse respirer un petit coup. Mais bon, le concept est intéressant. En tout cas, il faut bosser avec les scientifiques parfois pour qu'ils sortent de leur, de leur zone. Hein, parce que c'est difficile, ça s'appelle la vulgarisation. Mais enfin, quand on se trouve avec un verre à la main devant une assemblée, il faut enlever un petit peu les mots compliqués, les concepts trop durs.
Oui, et ça, c'est un gros, gros travail. Il y a certains scientifiques qui arrivent à le faire très bien. Mais c'est vrai que c'est difficile pour eux de faire beaucoup, beaucoup plus simple pour nous. Mais c'est un travail qu'on fait avec eux et ça joue la plupart du temps.
Bon, bah écoutez, Sophia, on arrive à la fin de la première partie. Là, on est dans une jolie balade ensoleillée à côté de la Vièze à Montet. On va se retrouver dans un instant pour la deuxième.
Blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Blanc large. Blanc large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Sophia Mastoridis, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. On remonte au courant. On a fait demi-tour au bord de cette Vièze qui n'est pas en fureur aujourd'hui, hein, qui est une Vièze douce et calme. Alors, on parlait des scientifiques que vous mettiez en relation avec les gens dans certains événements. Il y a un autre événement, moi, qui m'a interpellé. Alors, je ne sais pas s'il existe encore. C'est les nuits, les fuck-up nights.
Fuck-up nights, oui.
Ça veut dire les nuits de l'échec, en somme.
Exactement, les nuits de l'échec, en traduction libre.
Qu'est-ce que c'est que ce bazar?
Alors, c'est des soirées. C'est international, ça a été créé au Mexique. Autour d'un verre d'alcool, beaucoup d'alcool.
Oui, non, mais je vois. C'est, on se demande d'où viennent les idées avec l'innovation, ben, on a compris maintenant.
Oui, voilà. Mais en fait, l'idée de ces soirées, c'est de parler de l'échec. C'est des entrepreneurs, des jeunes, de tous les âges, qui viennent dire, voilà, moi, j'ai fait cette erreur, j'ai pas réussi, et c'est pas la fin du monde. Et on a adoré ce concept avec Neurone, et c'est pour ça qu'on a repris ces soirées, pour pouvoir les proposer en Suisse, parce que parler d'échecs, c'est tabou, un peu partout, mais en Suisse, c'est assez tabou, je trouve aussi. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'à chaque fois que tu demandes à un entrepreneur de participer à une soirée comme ça, il ne dit pas « Ah, mais non, mais tu me vois comme un échec !» Ils disent « Bien sûr, si je peux transmettre les erreurs que j'ai faites pour que les autres ne le font pas, ils sont partants. »
Ah, donc il n'y a pas besoin de les pousser, en fait.
Pas du tout, ils sont très partants, ils comprennent direct
mais
ce qu'on veut.
Mais c'est chez qui que c'est tabou, alors?
Je pense que c'est chez les gens qui ne sont pas entrepreneurs.
Okay.
Mais parce que tout entrepreneur sait qu'il y aura des échecs. Ce n'est pas possible d'avancer sans échec. C'est des leçons que tu prends, en fait. Ce n'est même pas finalement un échec. C'est des étapes pour la réussite ou pas, après.
Moi, j'ai parlé au début de cette émission, on va l'évoquer. Hein, vous avez lancé votre boîte aujourd'hui, liée à la Grèce, on en parlera. Ça veut dire que vous avez ce concept de l'échec bien, bien dessiné devant vous. Vous êtes prête, on s'y prépare.
Alors oui, je sais très bien ce que c'est l'échec. Je sais très bien ce que c'est de prendre les choses tout doucement, à ton rythme. Et je suis prête pour parler de faire une fuck up night, si quelqu'un est intéressé.
Bon, on va vous laisser vous planter avant de vous parler d'échec.
Oui, un peu plus que ça.
Bon, bonjour, vous avez décidé de lancer votre boîte. Alors évidemment, quand on vit cerné par des entrepreneurs, par des gens qui ont des idées, qui les mettent en place, etc., c'est presque du travail à ramener à la maison, quoi. Vous avez passé votre vie à vous dire, mais bon, alors c'est quoi mon idée à moi, quoi, c'est ça?
Eh bien, disons, je n'avais pas pensé à ça, mais vous avez tout à fait raison. Je suis encerclée par des innovateurs et des entrepreneurs qui n'ont pas peur d'aller de l'avant. Et je pense que ça m'a inspiré, c'est vrai.
Alors, vous avez mis en place maintenant, c'est tout frais, je crois, hein, un concept de voyage slow holidays, donc voyage lent, lié à votre pays, votre deuxième pays, la Grèce, avec une idée à la fois éthique, à la fois durable. Présentez-nous ça en quelques mots. Natura
oui.
Greca, ça
voilà,
s'appelle.
Voilà, ça s'appelle Natura Greca. Et le projet, c'est l'idée de découvrir un peu la Grèce d'une autre manière, un peu plus lentement et en dehors des hautes saisons et du tourisme de masse, mais en faisant ça en marchant ou en faisant du vélo électrique. En gros, c'est ça.
Moi, j'ai toujours cette idée, je trouve ça super, hein, mais dans l'idée de dire aux gens, venez découvrir des endroits que les autres ne connaissent pas, eh ben, on fait que ces endroits sont connus, du coup. Une espèce de paradoxe, là.
Oui, bon, ça, c'est si vraiment j'ai un gros succès.
Gros succès, oui,
parce
oui,
que pour l'instant, les sentiers en Grèce, qui est super, ils sont vides, parce que les Grecs, ils marchent pas. On n'a pas cette mentalité, et je l'avais pas non plus trop en Grèce, juste un peu, mais ils me disaient que j'étais folle, du coup. Mais ils n'ont pas cette mentalité d'aller marcher les week-ends, d'aller dans la nature, et les vacances, c'est à la plage.
Bon, c'est les pays chauds, hein, pays chauds.
Il fait chaud, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on part hors saison. Mais on va dans des endroits que, oui, les autres n'ont pas vu parce qu'il n'y a pas encore l'intérêt. Mais ça arrive tout doucement en Grèce. Et ça, je suis contente pour ça, en tout cas.
Le tourisme de masse, alors c'est une question mondiale aujourd'hui, universelle. Il existe chez nous, dans une version peut-être un peu plus vivable qu'à Barcelone ou à Athènes ou à Delphes ou à Olympie, j'imagine, hein, dans les grands spots, les grands spots touristiques ou dans les îles des Cyclades, évidemment, en Grèce. C'est difficile quand on aime un endroit, comme vous l'aimez, j'en suis sûr, de se dire à la fois, ben, le tourisme, c'est une chance économique, voilà, beaucoup de gens en vivent, etc. Et puis en même temps, c'est en train de ruiner un petit peu la réputation d'un pays. Hein. Barcelone, aujourd'hui, y a plein de gens qui y vont encore, mais il y a plein de gens qui ne veulent plus y aller parce que c'est invivable. Et puis les gens sur place trouvent ça invivable aussi.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et j'aime pas le tourisme de masse. Et j'aime pas, par exemple, aller en juillet en Grèce, sur les îles. Tu vas voir aucun Grec d'abord. Ce ne sera pas du tout authentique.
Et surtout en Allemagne.
Exactement. Mais la seule solution à ça, parce que les gens, ils vont continuer à aller en Grèce parce qu'ils adorent la Grèce. Et ça, j'ai compris ici. Du coup, ils vont continuer à aller. Est-ce qu'on peut les rediriger vers une autre saison? Parce que la Grèce, c'est une destination toute saison. Et le gouvernement, ils essaient de mettre en place aussi des choses pour attirer les gens hors saison. Parce que c'est juillet, août. C'est là où les îles, elles croulent. Sous les touristes.
Il faudrait de l'innovation sur le monde du travail. Hein.
Oui.
Faut bosser là-dessus aussi, Sophia.
Oui.
C'est pourquoi tous les gens commencent à bosser à la même heure, finissent de bosser à la même heure et ça fait des bouchons sur les routes. Pourquoi ça. Tous les gens sont en vacances en même temps?
Faudrait changer ça, je suis d'accord. Moi, déjà, mon patron, dans Connect, on travaille chacun depuis chez soi. Et voilà, on prend pas les... On se retrouve aussi, parce que c'est important de se retrouver humainement. Mais... Oui, il faudrait changer les choses.
Je faisais une petite parenthèse, là, un petit virage, mais Ici, en Suisse, on parle beaucoup pour nos stations de tourisme 4 saisons. Hein, c'est un vrai défi. Ça m'amuse et m'intéresse d'entendre que pour les pays a priori qui ont un temps plus ou moins stable, beau, toute l'année, avec des possibilités toute l'année, on a aussi ce défi du tourisme 4 saisons, tout simplement parce que les gens ne viennent pas hors saison.
Oui, exactement. Ils ne viennent pas pour diverses raisons, parce qu'on a beaucoup fait du marketing sur les mois de l'été, l'été en Grèce, et les gens ne savent pas, par exemple, qu'il fait encore chaud en Crète en octobre, peut-être. Il faut juste, pour moi, c'est juste une question de communication. Ça manque de communication pour les autres saisons.
Bon, comment vous bossez alors pour trouver des itinéraires durables, doux, slow, beaux, parce que la beauté est importante, n'est-ce pas?
Oui, effectivement. Alors, je travaille avec des magnifiques collaborateurs en Grèce, des guides de montagne ou des guides de vélo électrique. Et que c'est eux qui font les itinéraires. Et voilà, on passe toujours par des endroits magnifiques. On est... imaginez de marcher sur une île et à un moment donné, tu vois le bleu de la mer et les petites maisons blanches et tu es seul sur les sentiers. Je trouve que c'est magnifique. Et c'est beau, alors voilà, il faut juste aller et prendre un peu de hauteur aussi, même en Grèce. Même si c'est pas très très haut.
Bon, c'est un pays de montagnes hein, quand même.
Oui, on a des montagnes, ouais. C'est vrai. On a le mont Olympe.
On a le mont Olympe, bien sûr. La base de la civilisation.
Et oui.
Et l'infrastructure, elle est là?
L'infrastructure en Grèce.
Le parc de vélo, les recharges,
oui. Sentiers. Les sentiers sont en train d'être mis en place. Il y a une entreprise qui fait des sentiers sur toutes les îles pour l'instant. Ils créent des cartes et tout, et c'est un super travail qu'ils font. Et par contre, il faut quand même avoir un guide. C'est pour ça que dans nos voyages, on part toujours avec un guide. Parce qu'il y a des endroits en Grèce, dans l'Épire par exemple, les météores et tout ça, où il n'y a pas d'indication de sentier. Tu dois savoir.
Moi, j'ai failli me faire bouffer par des chiens errants aux météores. Oui.
C'est vrai.
J'avais 20 ans.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de chiens.
Je vous raconterai l'histoire hors antenne parce qu'elle était un peu longue. Mais
il y a plein de chiens.
Je ne sais pas si c'était des chiens ou des loups d'ailleurs, mais ils étaient énormes et c'était au moins une.
Vous avez couru ou vous avez fait quoi?
Non, je me suis réfugié dans une voiture et ils se sont jetés contre la voiture. C'était tout à fait.
Oui, alors ça, il y a des chiens. Il y a des chiens, il y a des chats. Bon, les chats, ils sont pas dangereux. C'est bien les chiens, mais pas tout seuls, errants comme ça, comme c'est en Grèce.
Je vous ai lu dans une interview à propos de ce projet dire que il y avait aussi pour vous un défi de mariage des mentalités. Hein, mentalité suisse, l'horaire c'est l'horaire, il faut que ça tourne, il faut que ça roule. Si vous mettez votre réputation sur la confiance des clients, faut que ça roule, sinon vous irez à une fuck-up night rapidement. Oui. Et puis un système grec, alors moi j'aime pas du tout la critique a priori des pays du Sud qui marcherait pas, etc. Mais voilà, où les logiques sont différentes. C'est déjà très concret pour vous?
Oui,
ça
oui, alors c'est très concret. Par exemple, il y a les gens, ils veulent savoir à quelle heure on part exactement, par exemple de demain matin. Et on ne peut pas leur dire environ à 9h. Il faut que c'est... Mais 9h ici ou 9h on part?
Ah, mais c'est Suisse, vraiment. Oh, détendez-vous un peu, vous êtes en vacances, enfin.
Voilà, mais non, il y a quand même cette mentalité qui se garde. Mais je dois dire que j'étais là-bas et ça aide d'avoir cette personne qui est moitié-moitié, qui a les deux cultures, pour leur faire comprendre que c'est bon, c'est juste une autre culture à rencontrer et ça fait partie du voyage, de l'expérience. Tu fais ça avec le sourire et les gens, ils sont relax, c'est bon.
Bon,
ils profitent.
C'est partie du job, le sourire, évidemment.
Oui.
On arrive à la fin, Sophia, de cet entretien. Le tourisme durable, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, qui est là un petit peu comme un but à atteindre, dont on ne sait pas s'il est inatteignable. Maintenant qu'on a goûté au tourisme de masse, c'est difficile de revenir en arrière, etc. Et éthiquement, philosophiquement, vous y croyez? J'imagine que oui, vous faites une boîte là-dessus. Mais enfin, vous voyez ce monde pouvoir changer?
Alors oui, je suis convaincue que c'est possible et on voit bien que les gens, ils sont en quête de ce tourisme, pas nécessairement durable, mais plus lent, plus proche de la culture et plus proche des gens et de l'authenticité. Alors oui, j'y crois.
Vous y croyez? Bon,
sinon, fuck up night.
Fuck up night. Fuck up night. Qu'est-ce que vous avez fait comme mauvais choix? Y croire.
J'y cru.
Bon, ben en tout cas, on vous souhaite du succès dans cette entreprise. Vous restez pour autant hein, dans tous ces domaines de l'innovation en Valais qu'on a évoqués au cours de cette émission avec les différents projets d'innovation dont on entend parler un petit peu toute l'année autour de ces questions. Bonjour et au revoir.
Merci beaucoup, Florian.
Des gens, donc on dit bonjour, mais oui. Moi je vous dis au revoir parce qu'on est à la fin de cette émission. Merci à vous, Sophia
Mastoridis. Merci beaucoup et au revoir.